Bonjour, nous sommes le lundi 29 juillet, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
Je voudrais être footballeur professionnel, styliste,
pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Depuis 3 ans déjà, un lundi sur deux, la relève, c'est 30 minutes pour rencontrer un nouveau talent. Aujourd'hui, pour la dernière de la saison, on ne fera pas exception en prenant ce qu'on appelait il y a quelques années, même quelques décennies, la nouvelle vague. Car à l'Est, figurez-vous, il y a du nouveau. Bonjour Joran Briand.
Bonjour Christophe.
Vous êtes designer et vous êtes venu il y a déjà 2 ans à ce micro. Ça s'appelait Radio Camping, c'était une émission d'été. Et vous étiez venu nous parler du projet West is the Best, pour lequel vous êtes de retour aujourd'hui. Et donc c'est déjà le numéro 3 publié aux éditions Pyramide. Est-ce que j'ai tout bon ?
C'est parfait, c'est parfait Christophe.
Alors vous l'aviez créé il y a 2 ans. Quel était le projet de départ ?
Alors, c'était il y a 6 ans, parce que le premier livre, c'était West is the Best California, qui est sorti en 2014, je crois, de mémoire, ou 2013, je ne sais plus. Et l'idée, c'était un peu une intuition. Ce premier voyage en Californie, c'était de partir à la rencontre de créatifs qui associaient plaisir et travail. Donc créatifs au sens large, des architectes, des photographes, des designers qui partagent leur temps entre leur atelier et la plage et la pratique du surf, et c'était de tenter de comprendre comment ils trouvaient leur équilibre. Et donc je suis parti avec une amie, on a fait toute la côte californienne.
Il y a pire comme vacances.
Oui, il y a pire. Et on a rencontré une dizaine de créatifs et on leur a donné la parole et on a fait ce petit livre qui était un petit peu artisanal au début. Et on a eu un succès, et je me rappelle lors de...
C'était il y a 6 ans déjà ?
C'était il y a 6 ans, ouais. Et lors de la première soirée, enfin événement autour du livre, quelqu'un vient vers moi et me dit, bah alors à quand le numéro 2 ? Et puis tout de suite ça s'est enchaîné un peu comme un cadavre exquis, puis il y a eu le numéro 2 France, et là le dernier numéro Mexique, où je suis parti avec ma compagne 2 fois un mois l'année dernière, et un peu dans cette même réflexion. On est parti sur la côte pour rencontrer des créatifs qui associent plaisir et travail. Sauf que sur ce voyage Mexique, on a plus orienté en fait le projet sur des gens qui ont créé des lieux alternatifs associant résidence artistique, hôtellerie, atelier, lieu de création, etc.
Alors pourquoi le Mexique ?
Parce que
c'est le plus proche en...
Déjà le Mexique est une destination surf. Au niveau culturel, c'est un pays qui est très intéressant. Ils ont toute la côte pacifique est très variée. Par cette proximité avec les États-Unis, beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs ont créé justement des lieux hybrides intéressants. Voilà, j'avais aussi tout simplement envie d'y aller parce que c'est...
C'était une découverte pour vous aussi de l'endroit, du pays ?
Oui, c'était la première fois que j'allais au Mexique.
Et donc, il y a quoi ? Il y a cette culture qui vous fascine, la culture mexicaine, qui est assez proche et lointaine, enfin, c'est un cliché, mais qui est à la fois... Par exemple, les églises catholiques, pour y être allé, il y a des églises catholiques comme en Europe, mais alors le culte qui s'y déroule n'a rien à voir.
Alors, je ne suis pas allé à l'église. Mais non, c'est...
Je présenterai les amis avec lesquels pour y aller.
C'est très riche comme pays. Il y a différentes cultures, il y a une histoire qui est importante. Il y a une culture du surf aussi qui est, par cette proximité avec les USA, qui est...
C'est quoi ? C'est les Californiens qui sont
qui sont allés au sud, qui ont descendu la côte.
Ils sont allés au sud parce que les vagues étaient meilleures, parce qu'il faisait beau.
Parce qu'il y avait moins de monde, parce que le surfeur a toujours cette quête de vouloir trouver des vagues magnifiques, et donc les premiers surfeurs sont allés direction Baja California pour essayer de trouver des vagues extraordinaires, encore plus belles et puis vierges.
Et c'est quoi l'intérêt ? C'est ça, à l'époque c'était de trouver des vagues vierges. Aujourd'hui, j'imagine, c'est beaucoup plus difficile d'en trouver, des vagues vierges.
On est toujours à la quête de cette vague vierge, et je pense que c'est une quête infinie. Donc, et à l'origine, je pense que oui, c'était des gens qui cherchaient cette vague parfaite, quoi.
Alors si j'en crois l'ours de votre vue, vous avez réalisé les entretiens, les photographies, les illustrations et même la direction artistique et le design de la revue. Pourquoi vous faites tout comme ça ?
C'est parce que c'est un projet qui est personnel. C'est un projet aussi, alors je ne fais pas tout seul, c'est un projet aussi qui est fabriqué au studio.
Donc, le studio qui est votre studio de design.
C'est ça, ouais, c'est le studio Brian Berthereau. L'idée, c'est que je pars en vacances, je prends des photos, je fais des dessins et puis je reviens avec toutes ces données. Et pendant un an, on réalise cette maquette au sein du studio. Et puis voilà, il naît ce livre après plusieurs échanges. Voilà.
Alors vous qui êtes jeune, pourquoi vous faites une revue papier plutôt qu'un blog ?
Je pense qu'au studio, on a cette culture de l'objet et l'idée de faire un objet fini.
Vous avez pu travailler sur la couverture qui est au toucher d'ailleurs.
C'est
jouer sur les papiers, c'est pour tout vous, c'est important. C'est quelque chose de sensuel.
Oui, voilà, c'est ça, ouais, de travailler sur l'objet papier, sur différentes matières, de le voir vraiment comme objet, cette revue ou magazine ou roadbook, on appelle ça comme on veut.
Alors longtemps, ceux qui ne savent pas ont une vision sûrement un peu futile du surf. Je me suis demandé en préparant cette émission si Point Break avec Kevin Hughes ou Bryce Dennis n'avait pas eu une image désastreuse pour vous, les surfeurs. Alors vous, comment est née votre envie de surf ? C'est en voyant ces films-là ?
Pas du tout, je pense que c'est un peu un fantasme. Je faisais du skateboard quand j'étais adolescent, un peu comme tout le monde. Et puis, souvent dans les magazines de skate, on voyait des images de vagues hawaïennes. Et j'avais jamais imaginé qu'on pouvait surfer en Bretagne. Et puis un jour,
êtes breton donc.
Oui. J'avais un groupe de copains. On était à Carnac, je me rappelle. Et un mec est arrivé, a dit ouais, on va surfer. Et je dis comment ça, on va surfer ? Il y a des vagues en Bretagne. Et je me souviens, on a pris une 4L, on est allé sur cette côte plutôt océanique, parce qu'on n'était pas dans la baie de Quiberon, et il y avait des vagues parfaites. Et c'était un peu comme si on ouvrait une porte, et du coup, on a pu surfer, et tout de suite après, j'ai demandé à mes parents d'acheter une planche à Decathlon, et puis ça s'est fait petit à petit.
Et pourquoi elle surfe plus que la voile ?
C'est la question. Par sa simplicité, je pense. Une planche, un leash, c'est un objet très minimaliste. La voile, c'est plus complexe. Puis ça demande aussi plus une étude du vent, des réglages de voile, etc.
Okay. Alors, dans cette revue, il y a dans l'édito, je crois que vous avez signé, vous citez Octavio Paz à un endroit et qui parle je vais pas retrouver. C'est classique, qui parle de la grande solitude du surfeur, et vous parlez de la grande solitude du Mexique entre la mer et le soleil, je crois. Et en fait, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que le surfeur est un chasseur solitaire ou est-ce qu'il chasse en meute ? J'ai l'impression qu'il y a les deux à la fois.
Je pense qu'il y a les deux, je pense que c'est deux attitudes différentes. Je parle pour moi, mais j'aime bien des fois me retrouver seul face à l'horizon, comme des fois j'aime bien partager de belles vagues. Et c'est marrant, en vieillissant, j'aime de plus en plus partager. Mais quand j'étais adolescent, j'aimais bien partir seul.
C'est quoi ? C'est parce que justement on cherche le bon endroit qu'on veut l'avoir pour soi et à pouvoir aller frimer après, genre moi j'ai trouvé cette vague-là ?
Non, je pense que c'est plutôt un moment un peu intime de méditation. Tout simplement.
Moi, je suis assez fasciné par les surfeurs, donc d'où toutes mes questions. Dans la même revue, on vient de parler d'un prix Nobel. Il y a aussi un Pulitzer qui est signé, qui est le Pulitzer. C'est William Finnegan, dont le livre a été retiré, je ne sais plus à combien d'exemplaires en France. Mais l'Express désignait donc Finnegan comme un insoumis à la fureur tranquille. Je me suis demandé si ce n'était pas la meilleure définition du surfeur, c'est un insoumis à la fureur tranquille.
C'est beau, ouais. On peut résumer ça comme ça.
Vous sentez-vous un insoumis à la fureur tranquille ?
Non, c'est vrai que le surf, ça permet de fuir un réel qui peut être un peu dur, de fuir un système qui peut être trop mécanique. Et on s'insère un peu dans du sauvage, dans une mer qui est mouvementée. Et donc, ça nous reconnecte, je pense, avec des éléments. Et ça nous permet de faire un break, voilà. Donc il y a un contraste, c'est vrai, qui se crée entre notre monde actuel et la pratique du surf.
Alors toujours, Finnegan dit, je vais essayer de traduire de l'anglais directement, il dit « Avec cette futilité au-delà des lois, le surf finalement traduit parfaitement la renonciation au monde productif qui est le désenchantement qu'il ressent vis-à-vis du système. Vraiment, vous pouvez m'en vouloir parce que je l'ai très mal traduit. Je mettrai la vraie citation sur le site internet. Est-ce que, ouais, justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez ce désenchantement-là vis-à-vis du système ? Est-ce que les gens que vous rencontrez au Mexique, ils ont ce désenchantement-là ? Parce qu'ils sont à la fois très alternatifs, et moi, je les trouve très, très dans le système, au fond. Ils sont ils sont tous très beaux, ils mangent 7 fruits et légumes, dans des très beaux endroits.
Oui, oui, c'est un peu le chat qui se mord la queue, mais j'aime bien cette phrase qui est « surfer est la meilleure façon de rater sa vie ». Mais après, on peut le dire avec plein de choses, faire du skate aussi, ou faire de la voile, ou etc. Mais oui, c'est-à-dire que je pense que ce qui est intéressant dans le projet du Mexique, c'est qu'on voit des gens justement qui veulent changer et qui créent un peu des écosystèmes à leur image, où on associe surf et créativité. Mais en même temps, ça devient aussi pas un business, mais ça devient une entreprise. Donc, avec les codes d'une entreprise. Et du coup, c'est très difficile de trouver cet équilibre entre sincérité et en même temps, un cadre d'hôtellerie ou de résidence artistique. Donc voilà.
Ça veut dire que vous avez vu des gens et dont vous n'avez pas senti la sincérité, dont vous n'avez pas parlé d'eux, par exemple ?
Ah, si, si.
Non, pas dans ceux qui sont dans le livre. Je suis sûr que dans le livre, vous êtes sincère, vous, dans ceux que vous avez vus. Mais est-ce qu'il y a des gens que vous avez vus et quand vous avez rencontré, vous vous êtes dit, lui, finalement, il fait trop du business ?
Non, je pense qu'on a eu du bol. On a rencontré et on a mis toutes les personnes. Toutes les personnes qu'on a rencontrées, on les a mises dans le livre. Non, on a eu du bol là-dessus.
Vous pouvez nous parler de la Casa Wabi, parce que grâce à vous, j'ai été voir sur Internet, c'est un lieu magnifique.
Ouais, c'est un lieu qui a été créé par Bosco Sodi, et une architecture qui a été signée par Tado Endo. Et voilà, c'est une maison qui est posée sur le sable, ouais, à Puerto Escondido. Et donc, il y a une partie qui est l'atelier de Bosco Sodi, qui travaille sur des sculptures en terre, sur des peintures avec une sorte de texture un peu qui fait penser un peu à de l'écume d'eau. Et donc, il y a plusieurs résidences.
C'est une résidence d'artiste.
C'est ça, ouais. Et donc, il crée aussi beaucoup de projets avec la communauté autour de Puerto Escondido.
Qui est sur la côte pacifique ou...
C'est ça, côte pacifique.
Au Mexique, on surfe que sur la côte pacifique ?
Non, on peut surfer aussi sur la côte est, mais c'est à une autre saison.
Et non, ça m'amuse parce que je me demande depuis le début pourquoi West is the best. À l'est, c'est nul.
Non, c'était.
C'est pour la rime.
C'est pour la rime, mais c'est une. C'est une chanson, c'est une reprise des chansons des Doors.
Ah là, c'est mon inculture qui est frappée. Alors, je vais reprendre une citation je ne sais pas de qui elle est. Et qui dit, alors je ne sais pas qui dit ça, partout où vous écartez du chaos, je pense que vous trouvez l'inspiration, les grandes idées viennent une fois que vous avez l'esprit libre, la ville vous sature d'informations, il est bon de défragmenter ses pensées, de faire le vide pour mieux sélectionner et appréhender les choses. Je pense qu'en fait, on fait une très bonne émission pour avant les vacances, parce que ça pourrait être le mantra de tout le monde pendant les vacances. Il est bon de défragmenter ses pensées, de faire le vide pour mieux sélectionner et appréhender les choses. C'est ça qu'apporte le surf ?
Oui, alors ça c'est une phrase, je ne sais plus de quel partenaire, mais de Savvy Studio. Eux, ce sont des créatifs. Ils ont une agence à New York et à Mexico City, et ils ont besoin. En fait, ils reçoivent tellement de données d'images quand ils sont en création, qu'ils ont besoin à un moment de se défragmenter, d'appuyer sur le bouton off, quoi.
Et vous-même, comme designer, vous êtes aussi toujours à la recherche de nouveautés ?
Oui, parce que je pense que le métier de la création, c'est un métier qui est sans fin. Quand on ferme la porte du bureau, ça continue toujours un peu à tourner. Et je pense qu'on a besoin d'avoir des pratiques assez fortes comme le surf pour un peu s'oublier et du coup passer à autre chose.
Pourquoi on s'oublie ? Parce que la force de l'élément aquatique est telle que je n'ai pas le temps de penser à ça.
Oui, voilà, c'est comme l'escalade, je pense, à tellement de coordination, d'observation, d'attention, voilà, qu'on ne peut pas penser à autre chose.
Les surfeurs sont les premiers écolos ?
Peut-être.
Non, c'est une question. Non, je vous demande ça parce que vous publiez un contrat de mariage très poétique entre l'arbre et l'océan dans cette revue qui est signée Laurence Perilla. Alors, est-ce que vous pouvez en parler de ce magnifique contrat de mariage entre
Alors,
l'océan
oui, c'est
et
vrai que dans ce livre, on a invité aussi d'autres auteurs à écrire des textes, soit sur la pratique du surf, soit sur le Mexique. Et en fait, Laurence avait écrit ce texte bien avant. C'est un peu un texte universel, c'est un contrat de mariage, voilà, avec l'arbre et la mer. Et je trouvais qu'il résumait bien un peu l'idée de ce livre.
Ça veut dire que vous aimeriez vivre dans une cabane dans un arbre si vous ne faisiez pas du surf ?
Bah, je pense que beaucoup de surfeurs, ouais, ont ce rêve-là.
C'est de ma faute. Talking Heads avec David Byrne, c'était Burning Down the House.
La relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Nous sommes toujours avec Joran Briand. Je peux dire que vous êtes le créateur, voire le rédacteur en chef de West is the Best. Oui, je peux sous-être rédacteur en chef. Enfin bon, on vient d'écouter donc David Byrne et Talking Heads. C'est un choix de Kelly Slater qui a expliqué au magazine en ligne de Red Bull que cela faisait partie de sa playlist avant d'aller surfer. Bon, je vais juste vous demander, vous pouvez dire à nos auditeurs et à moi qui est Kelly Slater ?
Kelly Slater, tout le monde le connaît, c'est l'un des.
Je suis pas sûr.
Des plus, enfin, en tout cas, l'un des surfeurs les plus connus pour les non-initiés.
Il y a une différence entre. Lui, c'est un surfeur sportif. Il y a une différence entre le surf, vous, tel que vous le pratiquez, celui de ces sportifs qui font des compétitions, des championnats du monde. C'est le même rapport à la vague, le même rapport à ce que vous expliquiez tout à l'heure, une espèce de lâcher prise, ou est-ce qu'eux, ils sont vraiment dans une compète et avec ce qu'il y a avec la compète, quoi.
Bah, c'est sûr que, enfin, oui, je pense que c'est deux pratiques qui sont différentes. Après, bon, je pense qu'on peut être professionnel et puis avoir, enfin, pratiquer le surf en compétition et en même temps de façon plus détente hors compétition. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai jamais vu le surf comme quelque chose de compétitif, mais que quelque chose de plus comme une détente.
Ouais, j'ai l'impression quelque chose de personnel, quasiment. On n'est pas dans le développement personnel, mais presque un truc de méditation.
Là, oui.
Un moyen que vous avez trouvé de méditer, de couper, de vous retrouver.
C'est ça.
Et de se retrouver en s'oubliant.
Ouais, de se recentrer.
C'est un peu le paradoxe de la méditation, ça. Vous avez une liste de presseurs avant d'aller écouter, avant d'aller faire du surf. Vous avez votre liste de musique.
Oui, j'ai une bonne liste qui s'appelle d'ailleurs Voici the Best.
C'est vrai.
C'est la playlist qu'on avait mis pour l'événement là de la librairie.
Alors, je vais vous demander, il y a un lien entre le surf et la musique, parce que qu'est-ce que serait le surf sans les Beach Boys ?
C'est un peu cliché, mais oui. On est le surf. On surf sur des ondes. Il y a toute une rythmique de l'océan, et je pense que de s'inspirer aussi de ces cette période, de ces ondes, il y a des musiques qui font écho à ça, et il y a toute une culture surf liée à la beach music.
C'est pas du tout un piège. J'aurais pu vous demander avant, mais là j'y pense en vous écoutant. Vous, par exemple, quel morceau pour vous symbolise le surf à part West in the Best? C'est vraiment pas un piège, hein, si vous n'avez pas d'idée.
Ça va me revenir.
C'est pas grave. Ouais. Vous avez designé une planche par ailleurs, vous.
Oui.
Donc, puisque vous êtes designer, vous avez dessiné une planche. Mm. C'était un plaisir particulier d'avoir fait votre planche pour vous.
Bah, c'était une commande, oui, c'était la commande idéale. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est le dialogue que j'ai eu avec le shaper pour réaliser cette planche.
C'est parce que c'est un shaper.
Un shaper, c'est quelqu'un qui réalise des planches de surf, et c'est vraiment un savoir-faire spécifique, parce qu'il faut poncer la planche, la strater, mettre de la résine. C'est une planche qui est en mousse. Et donc on a dessiné plusieurs planches, on a dessiné une planche aussi en fibre de jute et en fibre de verre. Et à chaque fois, voilà, c'est un dialogue avec ce shaper. Et donc, c'est ça qui est intéressant.
Et qu'est-ce qu'on cherche quand on fabrique l'objet ? Alors, j'imagine, vous cherchez une courbe parfaite, là aussi, qui s'allie bien à celle de l'océan. C'est quoi la recherche ?
En fait, pour la planche en fibre de lin, c'était utiliser ce matériau pour en faire une planche de surf. Donc on a travaillé sur des broderies, parce que c'était un textile qu'on a imprégné de résine, et on a dessiné un motif. Donc on était vraiment sur ce savoir-faire spécifique d'imprégner en résine une fibre naturelle. Après, pour les planches en fibre de verre qu'on a fait avec Poucuisse de Grenouille, qui est une marque française. L'idée, c'était plus de travailler sur des lignes tendues, un peu 70s. On a réalisé la dérive et l'arête centrale du surf dans la même pièce de bois. Donc c'était vraiment un travail d'ébénisterie aussi. Et c'était plutôt de faire une belle pièce unique. Et après, tout ce qui est courbe réalisé pour la pratique du surf, ça, c'est vraiment... le shaper qui est sachant et qui nous conseille et qui sculpte la planche pour qu'elle soit vraiment parfaite pour surfer.
Vous utilisez votre planche, vous, pour surfer ? Celle que vous avez dessinée ?
Non, malheureusement. Alors, celle en fibre de lin, je l'ai utilisée. Mais,
alors
ben, elle fonctionne.
Mais elle est bien ?
Oui, elle est bien. Ouais, elle est bien. Elle est bien. Et justement, ça prouve que la fibre de verre n'est pas forcément le matériau... idéal pour fabriquer des planches de surf.
C'était ça le pari technique, c'était mon truc qu'on pouvait faire parce que quand on ne connaît pas ce qui manquait.
Oui, parce que la fibre de verre est comment dire, très énergivore à produire et donc du coup la remplacer par la fibre de lin, c'est plus écologique.
Quand on lit des articles sur votre travail de designer, alors là on vient de parler de votre planche de surf, pardon, donc c'est évident, mais tout ce que j'ai lu, c'est que vous êtes inspiré par l'océan, la vague. Vous êtes d'accord avec ça ou c'est une facilité des journalistes qui vous rencontrent, qui disent bon alors lui fait du surf, on va dire qu'il est inspiré par la vague et hop là tout ce qu'il fait c'est la vague.
Ouais, je pense que c'est un peu une facilité, mais après je suis vraiment passionné par cette pratique, par cette discipline, enfin par le surf
et par l'océan.
Et par l'océan, donc c'est normal que je suis inspiré, enfin que l'océan m'inspire dans mon travail.
Et ça vous inspire comment? C'est que vous allez chercher, je sais pas, quand on vous amène un projet, vous allez d'abord vous promener au bord de l'océan, t'es la romantique ou...
Non.
Vous allez regarder des photos d'océan, vous avez que des livres d'océan chez vous?
Non, je pense que c'est une inspiration qui est un peu générale, c'est quand on voit la coque d'un bateau, un winch, quand on voit un coquillage usé par la mer, quand on voit les teintes du sable, voilà, tout ça, ça inspire, mais pas directement, je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. Après, moi, je vis entre Paris et la Bretagne, donc c'est un mix aussi du milieu urbain et du milieu océanique.
Alors, je vais quand même citer, je vais citer cette personne, c'est Bosco Sodi de la Casa Wavy qui dit « Surfer est une succession d'accidents, cela serait inquiétant et inintéressant si le surf était prévisible et mécanique. » C'est pareil, designer, c'est une succession d'accidents, la création, c'est toujours une succession d'accidents.
Oui, enfin, si, ça peut être résumé comme ça. Enfin, en tout cas, la création, c'est toujours une intuition et une prise de risque. Donc oui, ça peut être une succession d'accidents.
Et surfer, c'est ça, c'est une intuition et une prise de risque. C'est au moment où on prend la vague, on a l'intuition que c'est ce moment-là. Et...
Oui. Oui, parce que chaque vague est différente. On ne sait jamais comment cette vague va dérouler, comment ça va se passer, et à chaque fois c'est une prise de risque. Oui.
Et le risque, il est fort. Est-ce que ça fait partie du plaisir?
Ça dépend des conditions. Quand les conditions sont petites, c'est les moins, bien sûr. Que ce soit une petite vague ou une très grande vague, le plaisir reste le même. Après, y a des gens qui recherchent cette prise de risque en surfant des vagues gigantesques.
C'est quoi là? C'est le risque, il est où? C'est d'être englouti, c'est d'être.
Oui, c'est-à-dire que de tomber, de se cogner avec sa planche.
Mais c'est ça qui me terrorise, pour vous dire la vérité. Parce que je vous ai dit pendant la musique que moi j'aimerais bien faire du surf, mais que ça me faisait peur. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est de se prendre la planche dessus.
Pour ça, il faut toujours se protéger la tête.
Ouais.
Ouais. Non, mais. Je pense que oui, surfer des vagues importantes, pour le coup, là, on est obligé d'être très concentré et on s'oublie totalement et c'est ça qui est intéressant.
C'est ça qui est dangereux, en fait, c'est qu'il faut s'oublier pour bien surfer, mais si on s'oublie trop, on risque de se faire mal.
C'est ça.
Ou c'est peut-être on a tellement d'entraînement qu'au moment où on s'oublie, on arrive malgré tout à gérer et à ne pas aller trop loin.
Après, chacun gère son niveau, mais ça, c'est important, justement, avant de rentrer dans l'eau, un peu de se juger soi-même et voir si les conditions sont justes.
Votre plus beau souvenir de surf, c'est quoi?
Je pense que mon plus beau souvenir, il y en a plusieurs, mais...
Un qui vous a marqué.
Je pense que c'était l'un de mes premiers surf trips avec un ami. On est allé à Lombok. Et on avait loué des motos, on était partis vraiment avec les racks, les surfs, les fusils de chasse sous-marine. Et on a découvert une plage qui était vraiment magnifique, et une sorte de fer à cheval avec une vague, une belle droite. Et au milieu de cette plage, il y avait un arbre centenaire. Et donc on surfait cette vague et on se retrouvait après, il y avait un petit village de pêcheurs à côté, on se retrouvait sous cet arbre et il y avait quelque chose d'idyllique, enfin de parfait quoi.
Mais c'était pas c'est marrant parce que vous parlez à peine de la vague dans la description.
Non, c'était vraiment le cadre.
C'est intéressant, ouais. C'est ça qui vous a marqué.
Oui.
Et c'est ça que vous cherchez toujours aujourd'hui?
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est quand on est dans l'eau, on a ce rapport au paysage qui est différent, parce que du coup, quand on est dans l'eau, bah, on peut voir la côte. Et on est vraiment au bord du récif, au bord des vagues. Donc, en fait, ce panorama-là, très peu de gens l'ont. Et là, ce cadre était magnifique parce que ouais, c'était comme un fer à cheval et toute la côte nous entourait. Et voilà.
Magnifique pour terminer l'émission du 29 juillet. Merci beaucoup, Joran Briand. On vous souhaite à tous d'aller dans d'aussi beaux endroits, dans des fers à cheval, d'être enfermés dans ce lieu magique. Je rappelle, Joran Briand, que vous êtes le responsable, enfin, je ne sais pas comment on dit, l'initiateur de West is the Best qui a été publié aux éditions Pyramide. Et c'est donc le troisième numéro. Il est consacré au Mexique. Voilà, il est temps aussi pour moi de partir en vacances, je crois.
Merci.
Vous venez d'écouter La Relève, c'était l'ultime épisode de la saison 3. C'était toujours réalisé par Antonin. J'espère que c'est la dernière fois qu'on entend ce générique, dont je ne peux plus. Voilà. La présentation et la préparation étaient assurées par Christophe. Vous retrouverez le podcast de l'émission sur le site de Radio Campus Paris. Et vous pourrez aussi liker notre page Facebook où se trouvent plein de liens utiles. Merci de nous avoir écoutés pendant toute cette année. Passez un très bel été avec ou sans surf et rendez-vous début septembre. D'ici là, vous retrouverez des rediffusions de La Relève le samedi. Voilà, merci. Bonnes vacances, au revoir.